One Year Later, les oreilles loin du front à l'heure anglaise. Depuis que je suis passée de l'autre côté de la Manche, j'écoute les oreilles en décalé. Retour sur votre émission de la semaine dernière où vous receviez la sociologue Aurore Quéclin pour son ouvrage La norme gynécologique, sous-titré Ce que la médecine fait au corps des femmes, paru aux éditions Amsterdam. Et c'est l'histoire d'un succès que votre invité nous a raconté. Celui d'une norme devenue tellement invisible qu'elle est intériorisée et même naturelle finalement. Mais au fond, pourquoi ? Pourquoi doit-on aller chez le ou la gynécologue de façon ultra régulière quand on est une femme, même quand tout va bien ? Pourquoi doit-on se faire suivre ? Alors c'est avec ce qu'elle appelle une forme de naïveté sociologique qu'elle est partie en enquête pour sa thèse, diversifiant les lieux qu'elle a visités, clinique des quartiers chics, centre de PMI de la région parisienne, cabinet de consultation, urgence, mais aussi variant les personnes qu'elle a rencontrées, praticiens et praticiennes, militantes féministes de l'autogynécologie et bien sûr les patientes. Elle nous décrit alors les consultations auxquelles elle a assisté qui ponctuent ce qu'elle appelle la carrière gynécologique des femmes et cela lui a permis d'identifier quand et comment se construit cette norme gynécologique tellement plus invisible que celle avec lesquelles elle compose que sont la norme contraceptive et la norme préventive. Tout au long de l'émission, on suit donc les différentes étapes de ces carrières. Comment on les démarre ? En général autour de la sexualité et donc de la contraception, le plus souvent encouragée, guidée par les femmes de sa famille ou de son entourage, véritable facilitatrice de cette injonction de suivi. C'est ensuite bien le ou la gynécologue qui va, dès ses premiers rendez-vous, prendre le relais pour la perpétuer en insistant sur l'importance de venir régulièrement, d'avoir un bon suivi, tout ça. Allant même certaines fois jusqu'à utiliser la contraception comme une carotte, je cite, pour faire revenir leur patiente. Défilent ensuite les autres étapes clés de la vie des femmes, les grossesses, bien entendu, moment pivot de socialisation à la norme au gré des examens et des personnels médicaux rencontrés, ou encore la ménopause, lorsque la norme préventive prend alors toute la place. Bien sûr, comme toute carrière, tout n'est pas aussi linéaire et on assiste à des décrochages, des rattrapages, mais elle nous explique malgré tout avoir été frappée par la constance de cette norme au travers des classes et des profils qu'elle a rencontrés. Un succès, je vous disais. Alors attention, hein. On est certes face à des praticiens et des praticiennes formés de la même façon, mais qu'on se comprenne bien, une consultation dans une clinique du 16e, 30 minutes minimum, dans le confort, le calme, le respect, l'espace, l'attention, ces conditions n'ont rien à voir avec les 5 à 15 minutes maximum dans un centre de PMI quelque part en banlieue parisienne où il n'y a ni l'espace, ni le temps d'écouter, de comprendre et de prendre vraiment soin, ce malgré tout l'engagement des praticiennes et des praticiens. Son analyse des intersectionnalités de classe et de race entre ces deux mondes est fascinante. Elle montre d'ailleurs que ce sont souvent la façon dont les différences culturelles, religieuses ou linguistiques sont anticipées, voire redoutées, par les gynécologues qui contribuent à creuser les différences de traitement. Lorsque, par exemple, ils et elles simplifient à l'extrême ou infantilisent leurs patientes. Observation fascinante aussi, car même dans ces espaces, les femmes trouvent des façons de résister, d'affirmer leurs convictions, de manifester leur désaccord, leur réprobation, quand par exemple elles se désinvestissent totalement de la consultation de façon claire et visible. Ce sont d'ailleurs des signes que les gynécologues ont parfois moins de mal à lire que les signes physiques de non-consentement, lors des examens notamment, qu'il faut effectivement savoir décoder, jauger, traduire, percevoir. Aurore Quéclin consacre ainsi une partie de son ouvrage aux violences gynécologiques qu'elle n'a voulu ni minimiser, ni généraliser, mais en tant que sociologue féministe se devait évidemment de traiter, certaines fois même pendant les consultations, mobilisant intuitivement son savoir féministe à elle pour alerter, ouvrir des dialogues, voire proposer des solutions. Cette sociologue donne donc dans cet ouvrage et cette émission à voir, bon ok, à entendre, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas fait cette blague, elle m'avait manqué, tiens. Elle rend donc visible cette norme gynécologique en tant que construction sociale, pas pour être ni pour, ni contre, mais bien pour qu'elle apparaisse et que les femmes puissent à nouveau faire un choix conscient, actif, d'être suivies, pour plein de bonnes raisons, mais pas pour répondre à une injonction ou à une norme. La question de la responsabilité est ainsi au cœur de ce sujet. Qui prend le risque ? Qui porte la responsabilité et comment cette responsabilité pèse sur les patientes et sur les gynécologues. Bref, une émission éclairante à réécouter sur www.loldf.org, comme toutes les émissions. L'occasion de revenir aussi sur l'histoire de la gynécologie qui n'est pas du tout née avec la contraception. Tiens, tiens. Bonne émission ce soir, à la semaine prochaine et d'ici là, sur mon île, dotée d'un tout nouveau Premier ministre, I'm Olias, enfin, je suis toutes oreilles, quoi.